Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
La une de l'actualité ce midi, panique ce vendredi matin à Massissi au Nord Kivu. Des habitants de la zone se déplacent dans les localités de Muteo et de Nyamitaba. C'est suite à l'occupation de quatre villages par des miliciens Nyatura Bazungu après le retrait des FARDC selon la société civile. La plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a examiné jeudi après-midi les pétitions contre les membres du bureau, à l'exception du président Godefroy Mpoy, dont la pétition a été rejetée. Les pétitionnaires protestent contre la procédure. Notre invité, c'est le professeur Muindo Mwanda sur les conséquences en cas du départ de la MONUSCO. Il met le gouvernement congolais devant ses responsabilités face à la situation qui prévaut ces jours-ci à Beni au Nord Kivu. Madame, messieurs, bonjour. Panique ce vendredi matin dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Du coup, des habitants de la zone se déplacent dans les localités de Muheto et de Nyamitaba dans la chefferie de Bachali Kaembe à environ 30 km de Kichanga. C'est suite à l'occupation des quatre villages par des miliciens Nyatura Bazungu après le retrait des FARDC selon la société civile de Bachali. Le point de la situation avec vous, Sifama.
D'après la société civile de Bachali, il s'agit des villages Kaira, Bushiri, Kabuga, Muheto et Nyamitaba où les militaires FARDC se sont retirés progressivement depuis lundi dernier. La société civile ajoute que les militaires se retirent pour se concentrer ailleurs, notamment à Kirolirwe. Aussitôt ce retrait, les combattants Nyatura Bazungu réoccupent toutes les positions abandonnées par l'armée loyaliste. Certains acteurs locaux des droits de l'homme dans les contrées ajoutent que la panique s'observe davantage et la population se dirige dans tous les sens pour se mettre à l'abri des représailles. Nos sources renseignent que même les postes de police sont abandonnés à Nyamitaba et Muheto où les détenus ont même été relâchés. Rappelons qu'en début de semaine, l'armée s'est également retirée de Kivuye et Bweru pour se concentrer en Pati, Kirumba et Busumba dans les Bachali Mokoto. La population se dit inquiète car toute la zone reste instable. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 2 n'ont pas abouti. Goma, Sifa Magoro, Radio Kapi.
Dans le Tanganyika, la situation sécuritaire se dégrade dans le secteur de Kisengo, situé à 64 km au nord de Nyunzu. Deux personnes parties au champ sont portées disparues voici trois semaines dans une zone où des cas de meurtre et d'embuscade se sont accrus. La peur au ventre, la population locale évite d'aller au champ. À Kalemie, François Xavier Mibé.
Les deux personnes portées disparues sont des habitants de Kisengo. Kisengo est un site minier d'exploitation artisanale d'or. Ces deux habitants sont partis au champ et depuis trois semaines, ils ne sont jamais rentrés à domicile. Leur disparition est sur les lèvres de tous les villages. Un habitant en parle.
Les recherches ne leur ont donné jusqu'à maintenant. On n'a pas de certitude si les gens sont morts ou soit ne sont pas morts.
La détérioration de la situation sécuritaire que déplorent les acteurs de la société civile affecte les axes routiers Kisengo-Kalima, Kisengo-Kabeyamaï, Kisengo-Lunga et Kisengo-Musebe.
Après une semaine, on a enterré un homme qui était parti à son champ, tué dans un étang, son propre étang à la rivière. Il y a la police, il y a l'ANR qui sont partis examiner. On a retrouvé, l'homme n'a pas de dents. Au niveau du visage, on a quelques marques d'utilisation du feu.
Ces acteurs dénoncent aussi l'activisme des groupes armés présumés Mai Mai à Panapale, présents dans la zone. Des miliciens armés qui s'illustrent par des incursions dans les villages et des attaques d'autres communautés vivant les longs des axes routiers. Des attaques qui se soldent souvent par mort d'hommes, blessés, enlèvements, voire vol de biens. Kalemi, François Djabimbe, Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où la société civile dans les territoires de Beni et de Lubero fait certaines recommandations au gouvernement congolais et aux partenaires afin de mettre un terme à l'insécurité qui sévit ces jours-ci dans cette partie du pays. Des précisions avec l'un des responsables de la structure citoyenne, Georges Muhindo Katsongo, s'est confié à Marc Marofimbo.
La société civile recommande au Parlement de la République démocratique du Congo d'être attentif aux cris de la population, d'évaluer les actions de la MONUSCO et de confronter son mandat à la réalité du terrain conformément à l'article 214 de la Constitution. Aux manifestants, de s'abstenir des actes de violence et d'éviter des actes d'autoflagellation en victimisant davantage la communauté vulnérable et innocente. À toute la population, de maintenir cette pression, mais de l'orienter vers la cible réelle, c'est-à-dire les institutions de la République démocratique du Congo, qui sont les seules à maintenir encore la MONUSCO au pays.
Et puis, l'inspecteur général des FARDC est arrivé jeudi après-midi à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où il conduit une forte délégation. Le général Gabriel Amissi-Koumba a affirmé qu'il est venu à Kisangani, à la troisième zone de défense, pour une mission de contrôle et d'évaluation. À Kisangani, Jacques Mkongole.
Immédiatement après son arrivée à Kisangani, le général Gabriel Amissi dit Tango Fort a été conduit par le commandant de la 3e zone de défense auprès du gouverneur de province par intérim, Maurice Abibou Sakapela. Question de lui présenter ses civilités avant d'entamer sa mission officielle dans cette juridiction. Au sortir de cette entrevue entre les deux parties, le lieutenant-colonel Victor Massandi, porte-parole de la délégation, a expliqué à la presse l'objet de leur mission.
L'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo a comme mission de contrôler et évaluer les activités de chaque zone. Tous les commandants qui ne soient pas embarrassés, les inspecteurs viennent évaluer ce qu'il y a comme nécessité sur terrain et à cela chercher des solutions idoines.
Toujours selon le lieutenant-colonel Victor Massandi, des solutions idoines aux problèmes rencontrés seront données par le commandant suprême des FARDC dès qu'il aura connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Son souci, a-t-il souligné, est de restaurer la paix sur toute l'étendue de la République et particulièrement à l'est du pays. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Voilà qui nous amène maintenant dans les hauts plateaux d'Uvira au sud Kivu, où les localités de Bijombo et de Mikenge abritent les sites des déplacés ayant fui les affrontements entre groupes armés locaux. Les Banyamulenge sont logés à Mikenge, tandis que les Banyindou et les Bafuliru sont à Bijombo. Même si depuis 2 ans maintenant, les actions des humanitaires sont mises à mal, ces déplacés internes se disent rassurés par la MONUSCO. Reportage à Uvira de Fistongo Mamayabala.
La MONUSCO offre un périmètre de sécurité pouvant permettre de placer internes de Bikeng et de Bijombo, de paître leur bétail, de couper les bois d'échauffe et de travailler les champs. Conjointement avec les FARDC, le casque bleu escorte et s'est déplacé jusqu'à 2 km de périmètre autour de leur site. À ce système, s'ajoute un mécanisme d'alerte mis en place dans les sites et qui permet les interventions de l'armée et de la force onusienne en cas d'attaque de groupes armés. Plusieurs écoliers parmi les enfants des déplacés ont repris le chemin de l'école. Chombe Kagouge, directeur de l'école primaire 2 de Bijombo Ishenge. Nous sommes 2 écoles ici, Odari et Bijombo 2 que je dirige. J'ai 350 écoliers pour les 6 classes du primaire. Nous nous contentons de la prime de l'État. La protection est assurée par la MONUSCO. N'eût été elle et les FARDC, on ne poursuivrait pas ces activités scolaires. Quelques ONG humanitaires, dont Médecins du Monde, assistent gratuitement les déplacés en soins médicaux grâce à la présence des forces onusiennes et des FARDC dans la zone. Par ailleurs, la famine reste un grand défi dans les sites d'hébergement où 5 personnes sont mortes à la suite du manque de la nourriture, à Bijombo notamment. Suite à cette situation, beaucoup parmi ces déplacés regagnent leur village d'origine. Pareil à Mikenge. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Politique à présent. La séance plénière d'hier jeudi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'examen des pétitions contre les membres du bureau, à l'exception du président Godefroy Mpoy, dont la pétition a été rejetée. Peu avant, les pétitionnaires ont protesté contre la procédure. Le président de cet organe délibérant de Kinshasa a constaté que les initiateurs de la pétition ont vidé la salle avant la séance plénière. La fin de la séance. Les propos ont été recueillis par Paul Matendo.
Nous sommes très respectueux de la loi et nous le resterons. S'ils ont réellement besoin de nous destituer, ils devraient être dans la salle. Au lieu d'être ici, ils nous envoient des émissaires afin de leur trouver de l'argent. Nous n'avons pas de sous à distribuer. Nous avons de l'argent pour la reconstruction de la ville de Kinshasa.
Députés, chers collègues, plus rien n'est inscrit à l'ordre du jour. La séance est levée.
Et au Maniema, initialement prévu pour ce jeudi, le traitement des deux motions visant Moussa Firi Nkola et Jean-Pierre Amadi, respectivement gouverneur de province et vice-gouverneur, le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema annonce le report de la plénière. Selon le rapporteur, le vice-gouverneur a sollicité 45 jours pour venir répondre aux préoccupations des députés provinciaux. Thierry Badisungu est au micro de Florence Kizalunga.
Premièrement, c'est lié à la demande du vice-gouverneur qui est souffrant. Il a introduit sa requête auprès de l'Assemblée provinciale, demandant un report pour 45 jours, le temps pour lui de se faire soigner et venir répondre après ces 45 jours-là. Les députés, hier, qui se sont réunis en séance plénière à huis clos, avaient décidé à l'unanimité de lui accorder bien ce délai-là parce qu'il est réellement malade. Pour la motion qui était déposée contre le gouverneur de province, qui aussi comme la précédente, devrait aussi être examinée et pour la journée d'aujourd'hui. Les députés provinciaux ont trouvé utile de prioriser d'abord l'achèvement de l'examen des différents projets d'édit ou propositions d'édit qui sont en train d'être travaillés dans les différentes commissions. Il faut que nous puissions d'abord épuiser eh bien, tous ces projets ou propositions d'édit, arriver à les adopter, demander au gouverneur de les promulguer et puis on pourra également inviter le gouverneur pour qu'il puisse à son tour venir répondre aux préoccupations des députés par rapport aux griefs lui reprochés. Toutes les deux motions sont restées pendantes.
Dans un autre chapitre, au Congo central, près de 1500 personnes sont sans abri après la pluie torrentielle qui s'est abattue lundi dernier sur la cité de Kwakwa dans le territoire de Sekebanza. L'administrateur du territoire annonce à Radio Okapi que les maisons des sinistrés se sont écroulées à l'occasion. Ferdinand Ndunga plaide pour une assistance en faveur de ses administrés en souffrance. Amatadi n'en a plus richement bout.
D'après l'administrateur du territoire de Sekebanza, Ferdinand Ndunga, cette pluie torrentielle accompagnée d'un vent violent n'a duré que 30 minutes. Cette catastrophe naturelle a provoqué la destruction de 284 habitations. Il a indiqué qu'aucun dégât humain n'est enregistré, d'autant plus qu'il a plu pendant la journée, au moment où les résidents de ces maisons détruites étaient encore au champ. Le nombre exact des sinistrés qu'ont fait cette pluie reste encore inconnu. Mais en attendant les données que collecte le comité des crises que l'autorité locale a elle-même institué, Ferdinand Ndunga avance un nombre provisoire de 1500 sans-abri. Face à ces dégâts matériels importants, l'administrateur du territoire de Sekebanza appelle à l'aide en faveur de ces sinistrés.
Et tous les partenaires humanitaires ainsi que la hiérarchie, que c'est le moment indiqué pour venir en aide. Parce que quand on évalue le nombre de personnes, vu le nombre de ménages, on peut s'attendre à 1500 personnes touchées. Les besoins pressants, c'est les tôles, les briques, dont les planches. Et bien entendu, il y a aussi des histoires alimentaires parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu.
Notons que d'autres villages périphériques situés dans l'agglomération de Kwakwa, dont Sandakizulu et Kinzambi, ont aussi été touchés par cette averse. Matadi, Nana Pleurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis au sud Kivu, une foire agricole se tient en ce moment à Bukavu par l'Institut international de l'agriculture tropicale dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Un thème choisi, l'agriculture, source de développement économique des communautés congolaises, cas du projet Picagel. Objectif affiché, vulgariser les technologies, les pratiques et les innovations agricoles développées par l'Institut. Une vingtaine de stands sont installés ou sont exposés des innovations. Des précisions à Bukavu avec vous, Rachel Kiesemangou.
Ces assises ont été ouvertes par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, M. Marcelin Amani Bahaya, qui a témoigné son respect et reconnaissance aux agriculteurs et autres partenaires de participer au développement de la province en exposant leurs produits. Dr Fofana Mamadou, coordonnateur de l'intégration régionale du projet Picagel, appelle toute la population à y aller découvrir bon nombre de choses.
C'est comme une journée porte ouverte. On veut que les gens viennent de partout et poser les questions qu'ils veulent, parce que tous les spécialistes sont là.
L'on retrouve sur ce stand plusieurs produits locaux, notamment farine de semoule, sang de maïs, bouture de manioc, haricots riches en fer, de produits à base de soja et d'autres à base de manioc. Un des bénéficiaires du projet Picagel, Kibuki Lajean-Marie, qui expose des maniocs qu'il cultive, nous dit ici ce que cette foire représente pour lui.
Je cultive le manioc au travers ITEA. ITEA nous a amené la semence améliorée. Ça me représente une grande joie puisque nous sommes venus présenter constater ce que nous sommes en train de faire avec UTA dans notre village. Comment est-ce que nous avons quitté à 3 tonnes et aujourd'hui nous sommes en train de récolter 30 tonnes par hectare.
Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Djiboutiens votent ce vendredi pour élire leur nouveau président, un scrutin où le sortant Ismaël Omar Guelleh se présente pour un cinquième et théoriquement le dernier mandat. 215 000 électeurs sont inscrits sur une population de 990 000 personnes appelées à départager les deux candidats en lice. Le bureau de vote fermeront à 19h heure locale. Les Béninois sont appelés eux aussi aux urnes dimanche prochain pour élire leur président, alors que le pays a longtemps été salué comme une démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer une dérive autoritaire du régime de Patrice Talon qui brigue un second mandat. Au Tchad, le ministère de l'Intérieur annonce l'arrestation de plusieurs chefs des partis et des activistes des droits de l'homme qui se seraient préparés à perturber l'élection présidentielle de dimanche prochain. Un communiqué diffusé hier soir parle de l'arrestation de plusieurs leaders de la contestation. Le ministère de la Sécurité nationale annonce le démantèlement d'un réseau terroriste.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Muindo Mwanda. Il parle des conséquences en cas de départ de la MONUSCO. Il fait allusion aux manifestations qu'il qualifie d'exacerbation de la population du Grand Nord Kivu. Il attire l'attention du gouvernement congolais sur la situation qui prévaut ces jours-ci à Beni au Nord Kivu. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Professeur Muindo Mwanda, bonjour.
Bonjour.
Les villes de Butembo, Beni, Kassindi, Oicha, bref, le Grand Nord Kivu est sous tension depuis le lundi. Des groupes de pression et mouvements citoyens demandent le départ de la MONUSCO. Quelle lecture faites-vous de cela?
Je crois qu'il y a une exaspération quand même. Et la population est fatiguée. Et effectivement, ce qui se passe à Beni, c'est inacceptable. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est est-ce que c'est la bonne cible qui a été identifiée? D'une part, on ne peut pas dire que la MONUSCO n'est pas parmi les parties prenantes. Elle est aussi impliquée dans l'éradication de ce groupe avec la mission de protection des civils. Et sinon, les civils crèvent malgré sa présence. C'est clair que sa responsabilité peut être établie de ce côté-là. Mais il ne faudrait pas que cette responsabilité de la MONUSCO nous fasse oublier la responsabilité de l'État congolais. Avec le départ de la MONUSCO, je ne sais pas si on va cesser de détourner la solde des militaires. Je ne sais pas si, dès que la MONUSCO va partir, l'armée va cesser d'être infiltrée. Je ne sais pas si, lorsque la MONUSCO va partir, tout à coup, les jeunes qui sont désœuvrés et que l'on recrute dans les groupes armés, ils vont avoir immédiatement de l'emploi. Je ne sais pas si, dès que la MONUSCO va partir, du coup, tous ceux qui sont infiltrés dans l'armée, ils vont être identifiés et on va immédiatement les enlever. Ça signifie qu'il y a une forte responsabilité de l'État congolais qu'il faut aussi bien mettre en exergue.
Alors, dans leur démarche, ces structures ont appelé à une paralysie d'activité pendant 10 jours. Mais voilà, depuis le lundi, les activités socio-économiques sont paralysées et même les écoles n'ouvrent pas. Quel état des lieux vous faites de cela?
Bon, je crois qu'il s'agit d'une manœuvre de communication. La conséquence la plus simple, la radio Okapi parle de plus en plus des massacres. Je me suis rendu compte que les trois dialogues entre Congolais des derniers jours étaient dédiés à la question du Beni. Et ça, je crois que c'est une conséquence positive. Et du côté de l'État congolais, nous savons qu'à partir d'hier, il y a déjà une commission parlementaire constituée de 15 parlementaires non originaires qui va être envoyée à l'Est, même si s'il s'agit d'une mission parlementaire en plus, parce qu'il y en a déjà eu d'autres. Il aurait fallu peut-être qu'ils exploitent les rapports des missions précédentes, mais déjà, il s'agit d'une réponse de l'État.
Alors, le gouverneur du Nord Kivu a dit dans une de ses déclarations que ce genre de démarche, donc sans prendre aux organisations humanitaires, agences des Nations Unies, la MONUSCO, serait jouer au jeu de l'ennemi. Que pensez-vous de ça?
Lorsque l'on remet ses nerfs à leur place, il peut ne pas avoir tort. Il faut bien analyser le style communicationnel de tout ce qui circule comme vidéo ou audio. Il y a lieu d'avoir des doutes semblables à ce que le gouverneur a dit. Il faut aussi, à mon avis, jeter un coup d'œil sur la qualité de notre armée. Et à Butembo, j'ai fait un tour le premier jour de ces manifs. Je suis arrivé à un rond-point où j'ai vu une vingtaine de militaires. Parmi les 20 militaires, il y avait 12 qui avaient des tenues déchiquetées. Et c'était vraiment pitoyable. incroyable. Il y en avait qui baillaient. Il y en avait qui ressemblaient au kwashiorkor. Donc, ils sont très, très affamés. Et c'est dans ce contexte qu'on peut se dire, les ADF pourraient facilement utiliser, surfer sur l'exaspération de la population pour que la population s'en prenne à la MONUSCO et que la MONUSCO s'en aille. Et une fois que la MONUSCO vient de s'en aller, ils n'auront plus de difficultés à en découdre avec cette armée et des militaires affamés, des militaires infiltrés et qui sont aussi mal équipés.
En vous entendant parler, donc vous semblez dire qu'il n'est pas temps que la MONUSCO parte. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que la population comprenne vraiment l'importance de la MONUSCO à ces jours?
À mon avis, la MONUSCO a raté beaucoup d'occasions. Avant l'avant-dernier renouvellement du mandat de la MONUSCO, il y a eu encore des revendications populaires. C'était l'occasion, à mon avis, que la MONUSCO puisse permettre que ses activités sur terrain soient évaluées. Que la MONUSCO puisse communiquer clairement sur ce qui l'empêche à atteindre les objectifs. La MONUSCO communique très peu. Elle utilise les moyens qui ne sont pas appropriés pour faire passer les messages. Il faut rencontrer les populations.
Alors, pour finir, vous avez publié des ouvrages et rapports d'enquête sur l'activisme de l'ADF et groupes armés à Beni, à Lubero. Quelle est la meilleure stratégie actuellement, bien sûr, selon vous, pour mettre fin au massacre des populations à Beni et à Ituri?
Je ne passe pas par quatre chemins. Il faut renforcer l'armée congolaise. Et pour renforcer l'armée congolaise, il y a une série de choses qui doivent être faites, notamment lutter contre les détournements de leurs soldes. Qu'ils aient à manger, s'ils n'ont pas à manger, ils vont se battre de quelle manière? Mais à côté de cette réflexion, et j'aurais bien voulu qu'une main soit donnée à nous les scientifiques en collaboration avec les juristes. Savez-vous, tous ceux qui sont morts à Beni, c'est comme s'ils n'étaient pas morts. Parce qu'il n'existe pas de certificat de décès.
Professeur Mwanda, merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Mouindo Mwanda, interrogé par Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté infiniment. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Gilles Nyamwini.